Bamako, 22h à Abuja et minuit à Djouba. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Peu d'affluence pour les manifestations commémorant les 6 mois après l'enlèvement de plus de 200 lycéennes par Boko Haram. Au Mali, près de 6000 réfugiés sont de retour à Tombouctou.
Les réfugiés qui sont restés voir aujourd'hui, ils ont la paix, ils vivent dans la tranquillité. Aujourd'hui, il est dans son pays natal. Il n'y a pas un pays auquel il peut comparer à son pays.
Reportage de Kassim Traoré à suivre. Après avoir fui les combats, les réfugiés sud-soudanais sont victimes des inondations. Et enfin, suite à l'assassinat des membres d'une mission de sensibilisation au virus Ebola à Womé, en Guinée, une mission d'Avocats sans frontières s'est rendue sur les lieux. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Le président américain Barack Obama a appelé ce mercredi plusieurs dirigeants européens à faire un effort plus important pour contribuer à la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui fait des ravages dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest. D'après l'AFP, le président américain a demandé à ses dirigeants de faire un effort plus important, citant John Inhofe, porte-parole de la Maison-Blanche, à l'issue d'une conférence vidéo à laquelle avait été convié le premier ministre britannique David Cameron, le président français François Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel, et le premier ministre italien Matteo Renzi. La réunion s'est tenue peu après l'annonce d'une seconde contamination à l'Ebola sur le sol américain. Amber Vinson est une soignante qui s'occupait du patient libérien mort la semaine dernière à Dallas. Elle a pris l'avion depuis Cleveland dans l'Ohio pour revenir au Texas avant-hier. Le CDC essaie maintenant de retrouver les 132 passagers qui étaient à bord du vol 1143, même si la personne infectée ne présentait pas de symptômes pendant le vol. République centrafricaine, de nouvelles violences à Bangui ont fait au moins 5 morts et près d'une trentaine de maisons ont été incendiées. Au Nigeria, 59 soldats accusés d'avoir refusé de combattre les islamistes de Boko Haram ont comparu aujourd'hui devant un tribunal militaire d'Abuja. Ils sont poursuivis pour conspiration en vue d'une mutinerie. Ces militaires ont plaidé non coupables devant la cour martiale. Rappelons que le 2 octobre, 97 soldats engagés dans des opérations contre le groupe islamiste armé avaient déjà comparu à Abuja devant un tribunal militaire pour mutinerie.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Les militants du groupe État islamique gagnent du terrain dans la province d'Anbar, en Irak, tandis qu'en Syrie, ils continuent de combattre les forces kurdes pour le contrôle de la ville de Kobané à la frontière turque. Nathalie Barge.
Le chef de la police d'Amriyat al-Fallujah, à 35 km de Bagdad, a déclaré que les djihadistes avaient quasiment assiégé la ville. De son côté, l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme a déclaré que les combattants kurdes ont repoussé les djihadistes dans certains quartiers de Kobani, ajoutant que la coalition a lancé plusieurs frappes sur des positions des islamistes. Le président américain a exprimé son inquiétude sur le sort de Kobani et de la province d'Anbar lors de sa rencontre hier à Washington avec des responsables de la défense des pays de la coalition. Barack Obama a averti que la lutte contre les militants d'État islamique serait une campagne à long terme et qu'il y aura des jours de progrès et des périodes de recul.
Au Yémen, les rebelles chiites d'Ansarullah cherchent à étendre leur influence. S'en prenant aujourd'hui à des militants d'Al-Qaïda dans le centre du pays, les autorités font état de 11 morts, 5 rebelles et 6 militants sunnites à Raad, dans la province de Baïda. Les chiites ont aussi pris le contrôle d'Oudeïda sur la mer Rouge hier. Il y a quelques semaines, ils se sont emparés de Sanaa. Des organisations de défense des droits de l'homme ont exprimé leur colère après la publication d'images vidéo montrant plusieurs policiers battant un manifestant menotté et sans armes. L'incident s'est produit ce mercredi alors que la police tentait de déloger les occupants d'une importante voie d'accès près du siège du gouvernement. Tempête de neige et avalanche dans l'Himalaya, Népal, bilan au moins 12 morts, dont 8 randonneurs étrangers, 2 Polonais, 1 Israélien, 1 Indien et 4 Canadiens. Selon les autorités, 14 personnes ont été secourues. Elles craignent cependant un bilan plus lourd car le mauvais temps a rendu les communications difficiles, empêchant la localisation de potentielles victimes. Et puis, 8 personnes ont trouvé la mort dans des affrontements entre des travailleurs de la construction des villages à Yunnan, une province du sud-ouest de la Chine. De sources officielles, on apprend que 6 travailleurs ont été brûlés vifs. L'incident a également fait au moins 18 blessés. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, la suite avec Sahel+.
Retour à la partie magazine de Sahel+. Hier, le 14 octobre, marquait les 6 mois de l'enlèvement de plus de 200 jeunes collégiennes et lycéennes par Boko Haram au Nigeria. Ce kidnapping avait suscité une indignation internationale, reprise par les réseaux sociaux. Beaucoup de politiques et de célébrités portant un panneau avec le hashtag « Bring back our girls ». Autrement dit, ramenez-nous nos filles. Hier, une centaine de manifestants seulement étaient présents dans les rues d'Abuja et une poignée à New York devant l'ambassade du Nigeria, la chanteuse Alicia Keys étant la seule célébrité encore présente. Les questions restent entières autour de ces disparitions, comme nous le rappelle Ali Cabré, notre correspondant au Nigeria.
Beaucoup aussi savent que les terroristes avaient déjà promis de marier ces filles-là ou de les vendre.
Ici, malheureusement, il y a eu peu de gens dans les rues. Les réseaux sociaux prennent la relève du mouvement.
Oui, tout à fait. Les réseaux sociaux continuent à parler de cette affaire des filles enlevées, qu'il faut les ramener au pays. On a des blogs des dames qui sont très, très engagées et qui parlent, qui n'hésitent pas à parler de cette situation. Linda Ikeji, par exemple, ou bien Bella Naija. Des blogs, en tout cas, qui retracent tous les jours, qui donnent. Il y a même des blogs qui citent carrément, qui font le décompte des journées. Les journées passées par ces jeunes filles-là dans les geôles de ces terroristes-là. Et aujourd'hui, nous en sommes au 183e jour en cette date.
Est-ce que l'ambiance est plutôt pessimiste ou est-ce que certaines personnes gardent espoir de la libération de ces jeunes filles?
Récemment, avec l'action de l'armée nigériane contre les groupes terroristes, notamment à Maïdougouri, on a eu l'espoir qu'effectivement, quand l'armée va faire son offensive, peut-être qu'ils vont aboutir finalement à trouver des terroristes qu'ils vont arrêter. Il y a certains qui se sont démobilisés, mais qui n'ont pas vraiment toutes les informations quant à la position exacte de ces filles-là dans la forêt de Sambisa. Donc, quelque part, on s'est dit qu'avec l'offensive de l'armée, progressivement, peut-être qu'on arrivera dans une situation où on pourrait retrouver ces filles-là et on espère qu'elles seront vivantes. Et surtout, ce que beaucoup de gens espèrent en plus, c'est de vraiment trouver des filles qui soient encore normales et qui peuvent reprendre le chemin de cours.
Ali Cabré, correspondant de La Voix de l'Amérique au Nigeria. Nous nous rendons maintenant au Mali, où près de 6000 réfugiés sont de retour à Tombouctou. Ils viennent du Burkina Faso, de la Mauritanie, de l'Algérie et du Niger. Leurs frais de transport, plus de 150 millions de francs CFA, ont été remboursés en intégralité par le gouvernement malien. À Bamako, la classe politique et la société civile font le point des pourparlers d'Alger avant la reprise des négociations entre le Mali et les groupes armés prévues pour le 19 octobre prochain. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
La joie était visible sur les visages des 5996 réfugiés de Tombouctou qui sont de retour il y a quelques semaines. Certains avaient perdu tout espoir car ne sachant plus quoi faire. C'est ainsi que le gouvernement malien a débloqué 150 millions de francs CFA pour rembourser intégralement leurs frais de transport. Mohamed El Meidi Aguirissa, porte-parole des bénéficiaires.
Les réfugiés qui sont restés voir aujourd'hui et ceux qui sont venus spontanément au bercail volontaire, le remboursement a été fait, ils ont la paix, ils vivent dans la tranquillité, en symbiose cohabitation avec leurs frères qui sont là. Sur ceux qui remercient les autorités maliennes, aujourd'hui il est dans son pays natal, il n'y a pas un pays auquel il peut comparer à son pays. Il vit tranquillement et que Dieu bénisse le Mali, que Dieu amène la paix dans notre pays.
Ce premier lot de réfugiés a été arrêté et localisé grâce à un travail du gouvernorat de Tombouctou. Bakary Amadi Traoré, directeur du cabinet du gouverneur de Tombouctou.
Au nom de tout le monde du gouvernement que nous représentons au niveau régional ici, nous souhaitons vivement que ces fonds qui vont être mis à votre disposition puissent vous servir à quelque chose, puissent davantage renforcer la confiance entre les réfugiés et le gouvernement malien, puisque ça puisse faire tache d'huile pour que les gens rentrent définitivement au bercail.
Ces réfugiés de retour à Tombouctou ont prié pour la paix au Mali, alors qu'au même moment, il y avait la restitution des pourparlers d'Alger, une initiative de la coordination des organisations féminines du Mali, dont la présidente est Traoré Oumoutouré.
Il y a une désinformation, une sous-information, la manipulation de l'information. Et en tant que société civile, dont la mission consiste à informer, à donner la vraie information, nous avons voulu par étapes. Parce que les partis politiques, c'est un maillon incontournable. C'est eux qui ont la décision, c'est eux qui cherchent le pouvoir, c'est eux qui l'exercent.
Cette restitution a permis à la classe politique et aux acteurs de la société civile de faire des convergences de points de vue. Ils ont surtout demandé qu'un accent soit mis sur la communication lors des futurs pourparlers. Younis Amey Diko, président du parti RDS.
La communication doit être intelligente, bien élaborée et qu'il y ait une seule personne qui parle. C'est lui-là ou celle-là que le président de la République aura désigné comme chef de cette délégation. Alors c'est ce chef-là qui doit communiquer. Maintenant, la communication à l'intérieur, ça c'est extrêmement important. Nous n'avons jamais pris le courage de nous porter devant les populations pour leur dire exactement ce que nous pensons et ce que nous voulons.
Les pourparlers intermaliens d'Alger reprennent le 19 octobre prochain avec la présentation des propositions de sortie des crises des médiateurs, un document qui sera débattu pendant quelques jours avant son adoption. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Bamako, vous nous écoutez sur le 102 FM. Des dizaines de milliers de Sud-Soudanais qui se sont réfugiés dans une base onusienne de l'État de Unity pour fuir la violence font maintenant face à un autre péril, la montée des eaux. Les travailleurs humanitaires s'activent pour venir en aide à ces gens qui n'ont nulle part où aller. Les précisions d'Eddie Sango.
La vie sur les sites protégés des Bantu se résume à une lutte quotidienne contre l'eau. Devant une maison inondée, une famille tente de construire une digue, seule barrière contre les lacs boués qui les entourent. Mitterrissa, la mère, n'y trouve même pas un moindre coin sec pour allumer un feu. Dans la maison, les sols humides se muaient en boue. La famille dort à tour de rôle sur deux lits. Parfois, nous ne trouvons rien à manger. L'endroit est inondé et les enfants pleurent car ils sont obligés de rester debout sans un endroit pour s'asseoir, explique leur mère. Érigée sur un site marécagé, la base de l'ONU n'était pas censée accueillir tant de gens. Mais aujourd'hui, 47 000 déplacés s'y entassent. Ce sont essentiellement des Nuers qui ont fui les affrontements entre les rebelles en majorité Nuer et des forces gouvernementales composées des Dinka, ces dernières contre la Bentoui. Beaucoup ont peur de partir. Au moins, il y a des marchés sur place dans les camps et un sens de communauté. Cependant, vivre en permanence dans l'eau jusqu'aux genoux rend la vie insupportable. Il y a beaucoup de maladies comme celle de la peau. Vous avez l'impression que tout votre corps vous démange, si bien que vous dormez mal. Il y a aussi la diarrhée parce que les latrines sont inondées et les eaux souillées ont envahi les maisons où nous vivons, explique Robert Terre, un habitant du camp. Les inondations ont détruit non seulement les maisons, mais aussi les écoles et l'accès aux centres de santé. Les agences humanitaires qui assuraient ces services dans les camps se concentrent maintenant sur une nouvelle priorité, les drainages. L'opération consiste à pomper l'eau du camp vers les marécages à l'extérieur, tandis que les engins des terrassements construisent des digues pour empêcher l'eau de revenir dans les camps. Le chef du bureau de l'UNICEF pour l'État d'Unity, Ayinga Razafi, dit que cela prendra des semaines avant que les sites de protection ne s'assèchent. Créer les conditions de vie sur place est la seule solution à long terme, dit-il.
The biggest need right now, if I may say, is peace.
Le plus grand besoin actuellement, si je puis dire, c'est la paix pour que nous déplacions les gens hors de ces sites de protection. Ils ne sont pas supposés vivre ici, mais les conditions de vie hors du camp ne sont pas réunies, expliquent les responsables de l'UNICEF, ajoutant qu'il vaut mieux que les déplacés restent sur place. La saison de pluie devrait prendre fin bientôt et les responsables militaires s'attendent à une escalade dans les combats, ce qui accentuerait encore la pression sur les déplacés qui ont déjà beaucoup souffert et sont au bout du rouleau.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique, 99 FM à Abidjan. En Guinée, suite au massacre de Womé le 16 septembre dernier, une mission d'Avocats sans frontières s'est récemment rendue sur les lieux pour mener des enquêtes. Les membres de cette mission y ont été arrêtés pendant 5 heures avant d'être libérés et refoulés. Georges Léonard Sagnot a recueilli la réaction du docteur C.C. Victorien Théa, avocat au barreau de Guinée et représentant régional de l'ONG Womé.
Nous avons eu des échos par rapport à ce qui se passait en matière de violation des droits de l'homme en Womé. Donc, notre ONG Avocats sans frontières Guinée a entrepris une démarche allant dans le sens de vérifier la véracité des rumeurs selon lesquelles Womé, après le massacre, serait érigé en caserne militaire. C'est ainsi qu'une délégation est venue accompagnée de deux journalistes. Nous sommes allés sur le terrain. Et avant de partir, ils étaient venus dans notre mission. Nous avons fait le tour sur le gouverneur. Et sur le gouverneur, nous avons eu la version des faits. Après, nous sommes allés voir le préfet aussi, la ligne de sa version des faits. Après, nous sommes allés voir le procureur de la République. Et le gouverneur et le préfet ont respectivement jugé lors de mission de la délégation Avocats sans frontières, ainsi que lors de mission des deux journalistes qui accompagnaient notre délégation. Si nous voulons nous constituer en partie civile ou à la défense, il faudrait qu'on se rende à Womé et voir effectivement le lieu et les conditions dans lesquelles ce massacre a été perpétré. Et aussi, si nous voulons travailler dans le sens de l'observation et de la protection et de la promotion des droits de l'homme, voir est-ce qu'après les massacres de Womé, la population est en train de mener une vie normale.
Alors, que s'est-il passé?
Le 4 octobre dernier, la mission s'est effectivement rendue à Womé. Oui, arrivée à Womé, la mission a fait aussi toujours viser son ordre de mission par le capitaine qui était le commandant du contingent militaire qui est actuellement là-bas, capitaine Moussa Moïse Keita. Et qui nous a reçu et qui a visé l'ordre de mission. Et après 10 minutes d'interview avec lui, il nous a même permis de filmer son interview. Et il nous a dit, après avoir visé, que nous étions libres de mener la mission. C'est ainsi qu'il nous a conduit au niveau de la force tactique, là où les personnes assassinées justement ont été enfouies. Après, il nous a conduit vers le centre du village où nous avons rencontré le contingent de la gendarmerie qui a demandé à ce qu'on appelle le commandant des jeunes. Et le commandant des jeunes a donné l'ordre d'arrêter notre mission. Ils nous ont détenus pendant plus de 5 heures, de midi jusqu'à 17 heures. Et ils nous ont entendus sur TV comme si nous étions des délinquants. Ils nous ont dépouillés de nos appareils. Après, ils ont dit de retenir les appareils, mais en retirant les cartes mémoire. Et ma tablette a été détenue par eux. Le dimanche 5, arrivé à Jérusalem, nous avons informé le gouverneur des faits et nous avons demandé de faire tout pour connaître nos appareils. C'est ainsi que le lundi, à 14h, le gouvernement m'a appelé en m'invitant de passer avec nos amis et récupérer les appareils et les cartes mémoires. Nous sommes rendus à 15h sur lui. La restitution a été faite et nous avons restitué les appareils saisis, mais tout en dépensant toutes les photos prises à nos mains.
Que comptez-vous faire maintenant?
On avait deux objectifs. Premièrement, c'était nous rendre sur le site, voir la scène du crime. Et de l'autre côté, c'était aussi de voir est-ce qu'en matière d'observation des droits de l'homme, devant un tel fait, je pense qu'il y a des anciennes pratiques auxquelles nos forces de l'ordre sont habituées. Est-ce que cela se répète? Le village est vidé de son contenu, aucune personne là-bas, il n'y a plus d'animaux domestiques.
Docteur C.C. Victorien Théa, avocat et représentant de l'ONG Womé. Celle Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Au montage, Josèle Morissin. À la technique, Michal Dubinski. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons avec l'immense musicien du Nigeria, Fela Anikulapo Kuti. I know your feeling, Fela de Black President, qui aurait fêté ses 76 ans aujourd'hui. Rendez-vous demain, 21h, temps universel, sur La Voix de l'Amérique, ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.